Maquillé, une nouvelle de Benoît Camus, tirée de son recueil Un si doux mirage aux éditions Zoner, lue par Serge Cazenave. Jean Guingois et Louis Bastingage roulaient carpette sur la banquette arrière. Il était 3 heures du matin et l'atmosphère trahissait un relent d'aigreur. Dans la tête de Gênes aussi, ça tanguait. Malmström et gorge sèche, ils tenaient le cap vaille que vaille en se félicitant de la tournure que prenait leur virée. Aucune anicroche, pas une ombre au tableau. Ils n'en revenaient pas d'être là, eux à sa merci, au volant d'une bagnole trop belle pour cette départementale frangée d'arbres qui empêchait la lune de se refléter sur sa carrosserie. Tout s'était enchaîné avec une déconcertante facilité. Sa chance se présenta quand, après maintes déambulations sur le parking derrière le grand casino, à l'heure où les joueurs accrochés à leurs rêves et à leurs jetons espéraient encore ramasser le jackpot, il repéra l'AX GTI maquillé en Maserati. Transfiguré par l'éclat d'un autocollant plaqué argent qui portait les armes de la célèbre marque italienne, scotché centré sur l'aileron du haillon, elle s'imposa comme une évidence. Il l'élut voiture de la soirée et l'emprunta par la grâce d'un crochetage tout en douceur. Puis il les rejoignit au coin des bons amis où, lors de leur fortuite rencontre place des Halles, ils s'étaient donné rendez-vous avec la promesse de fêter dignement leur retrouvaille. La Maserati, comme prévu, frappa les esprits. Elle leur jeta des paillettes aux yeux, les mit en confiance. Une telle caisse plaidait indéniablement en faveur de son propriétaire, lui conférait un attrait qu'il n'aurait pas imaginé à première vue et au souvenir de sa fréquentation. Eugène, contre toute hypothèse et à la surprise générale, avait des arguments à défendre et de la répartie à revendre. Les gonzes, galvanisées par cette révélation, éclusèrent les bouteilles à disposition sans arrière-pensée et se déboutonnèrent au point qu'il dut lui aussi éponger afin d'atténuer l'écœurement qu'il avait à les écouter. Il leva le coude autant qu'à son tour et noya leurs bons mots au fond de son verre. Peu importait l'ivresse, la suite des opérations ne requérait pas de sa part une clairvoyance de vaticinateur. Eugène aimait bien le mot « vaticinateur ». Il l'employait dès qu'il en avait l'opportunité, ce qui n'était pas souvent. Sa détermination surnagea néanmoins et, ses objectifs toujours à flot, il se porta volontaire à l'issue de leurs joutes oratoires et alcoolisées pour les ramener chez eux. Il n'eut pas à se faire prier. Il les embarqua, dociles et intimidés par tout ce luxe qu'ils allaient toucher des fesses dans son carrosse. Et maintenant, il les trimballait à travers bois, en pleine nuit, l'esprit embrumé et titillé par des effluves de boyaux tordus, en essayant tant bien que mal de coller à l'asphalte.
« Où c'est qu'on va ?»
Eugène devina, l'accent traînant sur le « ou » et le « on », que c'était le Louis qui inondait son pavillon auditif, droit d'un souffle plutôt poisseux. Il écarta sa tête et répondit, en pointant du doigt le pare-brise, « Ben, je vous ramène !» Il sentit son interlocuteur perplexe. Le bonhomme eut un hoquet, se tourna vers son compagnon de beuverie et lui secoua l'épaule.
C'est par là qu'on rentre ?
Louis Bastingage s'enquérait auprès de Jean Guingois, car il n'était pas certain lui-même de la route à suivre et se demandait si, après tout, pourquoi pas ? Par là aussi, le chemin conduisait au bercail. Jean leva un sourcil, s'étonna.
C'est où qu'on est ?
Eugène soupira. Ses passagers manquaient de conversation. Ils en avaient épuisé les sujets tout à l'heure devant leur verre de blanc sec. En vrac, la reconversion de Marouane en chauffeur-livreur de cercueil à vide ou pas,
la pêche à laquelle ils avaient choisi de consacrer leurs indemnités et leurs journées, les berges des canaux qui s'effritaient par défaut d'entretien, la pollution et la pénurie détruites depuis la crue de l'année dernière, le père Josse qui préférait la chasse et son chien Escampette, sa femme qui l'avait prise la poudre parce qu'elle en avait eu assez de plumer des canards sauvages. Et le bon vieux temps de l'usine, quand celle-ci fonctionnait à plein régime, notamment le jour fatidique où Eugène avait été jeté dans leurs pattes et était tombé sous leurs griffes. Cela remontait à 6 ans, des brouettes, pour sa part, il s'en souvenait comme si c'était hier. Il consentit à les informer. On traverse la forêt du Bramois. Entendit-il derrière. Il s'abstint de relever, les laissa développer. Le Bramois ? Et Jean d'imiter le cerf en rut les soirs d'automne. Le cri résonna tant dans l'habitacle et entre les tympans de gêne que sa cervelle ballottée d'alcool glouglouta, provoquant une embardée de la Maserati. Le véhicule écrasa 1 ou 2 mètres de plantes, d'herbes et de fleurs, difficilement identifiables en ces heures sombres, et recouvra sa trajectoire sur le bitume sitôt que l'état encéphalique du conducteur se stabilisa. Eugène grogna. « C'est pas des coups à faire !» Les deux autres se bidonnèrent, ou plutôt tressaillirent sous une rafale de spasmes ponctués de quelques reniflements sonores, à moins que ce ne fût de grognements. Louis, entre 2 convulsions, ne voulut pas demeurer en reste et proposa à son tour sa version du brame. Mais, saboté par son hilarité, sa démonstration fit un flop. En conséquence de quoi l'ambiance retomba d'un chouïa. Les rires s'estompèrent et, vexé, Louis critiqua l'itinéraire. « C'est pas le plus court !» Eugène haussa les épaules. Il ne comptait pas polémiquer, bien qu'il eût à objecter sur l'assertion un peu hâtive de son ancien collègue et tortionnaire. Il préféra souligner la munificence de la forêt en ces temps de copulation des cervidés et se rappela qu'il aimait le mot « munificence » qu'il employait dès que les circonstances le lui permettaient. Justement là, elle s'y prêtait. « Bah, y a que du noir !» remarqua Jean, le nez collé à la vitre. « C'est la saison de la chasse !» répondit à tout hasard Eugène, qui ne comprenait pas où l'autre désirait en venir. Ah ! Puis, sur ces mots, ils roulèrent en silence. Les compères somnolèrent très vite, ronflèrent par intermittence. Eugène devinait leur ombre dans le rétroviseur et tentait de voir s'ils dormaient la bouche ouverte. Non que cela revêtît une quelconque importance, toutefois, il voulait savoir. La posture peu flatteuse suffisait à ruiner le prestige d'un homme, surtout quand au bord des lèvres pendouillait un filet de bave. L'obscurité ne lui permit pas de le vérifier et il dut suspendre ses investigations. Il se contenta de leur silhouette bedonnante, assez pitoyable en elle-même, et se réconforta à l'image de leurs corps tassés l'un sur l'autre avachis. Jean Guingois et Louis Bastingage étaient de pauvres types. Il se demanda comment il avait pu subir leur brimade pendant tous ces mois. Il ne se le demanda pas longtemps car une forme massive traversa la route, interrompant ses réflexions. Le pied droit à fond sur la pédale de frein ainsi que les crissements des pneus sur le macadam n'empêchèrent pas la collision. La Maserati percuta la chose, le choc réveilla les pauvres types. « Quoi ?» se manifesta Jean. « Qu'est-ce que c'est ?» traduisit Louis. « On s'est pris une bête !» informa Eugène qui essayait de récupérer de ses émotions en lampant bruyamment de grandes goulées d'air propres à endiguer les débordements de sa respiration. « T'en fais une tête !» Il était en effet livide. Cependant, sur le même thème, Louis, qui le scrutait d'un air bovin, n'avait rien à lui envier.
Il exprimait une telle viduité dans le regard que Gêne le dévisagea en retour avec une fixité qui aurait alarmé un responsable du personnel en temps de vache sobre. Eugène trouva qu'il ressemblait à un steak. Le constat acheva de lui brouiller la mine. « On a renversé une bête, » expliqua-t-il, comme si cela suffisait à justifier son teint cadavérique. Il désigna le capot. On en distinguait le bout embouti. Les plissements de la tôle donnaient un tour nettement moins profilé à la Maserati. « On a renversé une bête, » répéta-t-il. Il se détourna du bonhomme dont les traits se confondaient de plus en plus avec ceux d'une tranche de bidoche, reposa ses mains sur le volant, se concentra et calma leurs tremblements. Il passa la marche arrière, précautionneusement recula de quelques mètres, stoppa, la bête apparut plein phare devant eux. « C'est un sanglier, » annonça-t-il d'une voix blanche. Il se pencha vers le fauteuil à la place du mort, fourragea dans un sac, duquel il tira un fusil et des munitions. Il glissa celle-ci dans la poche de sa veste. « T'as un fusil ?» s'étonna Jean. « Bah ouais, c'est la saison de la chasse. Tu circules toujours avec un fusil ? C'est la saison de la chasse !» Les deux comparses à l'arrière se poussèrent du coude. Leur attention alternait entre l'animal planté au milieu de la départementale et le canon lisse qui réfléchissait leur désarroi. Jean se gratta l'oreille. Louis porta brusquement sa main à ses lèvres afin de prévenir un retour de bile. Il serra les dents, refoula le flot d'acidité et rumina. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda-t-il à Eugène, qui ouvrit sa portière et posa un pied à terre. « Je vais l'achever. » Eugène, le fusil en rempart, s'extirpa de la voiture, se dressa le long et amorça un pas de côté. Il vacilla, le froid et l'éblouissement. Il avança. De sa bouche s'échappa de la vapeur que la lumière diffuse concréta en écran blanc. Il avança à tâtons vers le bloc noir qui se détachait sur l'asphalte. « Et il est déjà mort !» observa Jean qui s'esclaffa face à l'incongruité de la situation. Et Louis d'enchaîner avec des meuglements joyeux. Les deux amis hilars se tâtèrent les flancs, se tamponnèrent la panse en désignant du doigt la silhouette flageolante qui approchait du sanglier, ce chasseur d'opérettes, prédateur de pacotilles, qui s'en prenait à un cadavre. La scène brillait par son grotesque. Eugène, ridicule, en perdit toute crédibilité. L'image du tocard craintif et servile, frais affecté au sein de leur équipe il y avait plusieurs années, en profita pour ressurgir dans leur conscience imbibée et se superposer à celle du chichiteux, fier de sa réussite, qui voulait leur en remontrer depuis le début de la soirée. Les masques tombèrent. Ils tombèrent d'autant mieux que l'état de son bolide ne lui permettait plus de pavoiser. « Il est déjà mort !» répéta Jean. « M'étonnerait !» répondit enfin Eugène, sur un ton qui trancha avec leur bonne humeur bovine. Il s'arrêta à quelques pas du corps en boule, chargea son arme par la culasse et, sans vérifier si la bête respirait encore, lui tira une balle dans la hure. La détonation troua le silence de la forêt. Elle dégrisa ses compagnons et convertit leur molle insouciance en morne hébétude. Eugène s'en rendit compte quand il revint vers eux. Il les considéra longuement à travers les vitres de la bétaillère. Ils lui parurent si avariés qu'il éprouva de la répulsion. Il regarda autour de lui. Le fusil qu'il avait entre les mains, le canon fumant et, à nouveau, leurs mufles corrompus par l'incompréhension. C'était le moment ou jamais. L'heure de la revanche avait sonné. La vengeance du bleu-bite. Jean et Louis, mal croupis dans leur jus en proie à des crampes abdominales et à des angoisses viscérales, se tortillèrent sur la banquette. Le coup de feu avait remué leur estomac au point d'altérer leur perception de la situation, si bien qu'ils trouvèrent un drôle d'air au tueur. L'insistance de son regard les troubla. Ils lui prêtèrent des intentions d'écarissage. Ils se tracèrent un sourire moisi sur leur face de charogne afin de donner le change, ouvrir une portière pour s'enquérir, mine de rien, des nouvelles. « Tu l'as tué ?» Ils descendirent du véhicule. En équilibre sur les gravillons qui les faisaient chavirer, ils se rattrapèrent à l'auvent de la Maserati, s'y accrochèrent le temps de s'acclimater au roulis. Eugène se taisait. Il se contentait de les observer quand un groin commença à lui coloniser le visage. Le troupeau s'inquiéta sérieusement. Ils beuglèrent d'une voix pâteuse, que l'effroi empâta encore lorsque des défenses lui poussèrent par les naseaux, que des écoutes surgirent de part et d'autre de son front. Que ses mirettes se rétrécirent sous la poussée des poils durs qui se propageaient sur ses pommettes. Le sanglier, balbutia Louis en pointant Eugène du doigt. Il est vivant. Les carcasses épouvantées s'écartèrent de la voiture. À reculons et à pas craintifs, elles s'éloignèrent du solitaire qui les scrutait sans bouger, firent volte-face et s'enfuirent. Eugène sortit deux cartouches de sa poche, arma son fusil, visa et l'un, Jean, après l'autre, Louis, les abattit. Il fit mouche du premier coup, s'en félicita. S'en félicita d'autant plus que la pénombre l'empêchait de rien distinguer au-delà de 5 mètres. L'instinct du chasseur, s'expliqua-t-il. Il avança jusqu'au charnier, effectua le tour de la boucherie, constata le carton. Voilà, c'était fait. Il était incapable de dire s'il se sentait soulagé, mais bon, en tout cas, c'était fait. Il avisa le corps de la victime velue et collatérale devant la Maserati et, toujours sur les projecteurs, vit quelle partie tirer de ce sacrifice inopiné. Le porc sauvage brouillerait les pistes, endosserait la responsabilité du carnage. Électrisé par ce trait de génie, Eugène frissonna de plaisir. Il revint vers le cochon pigeonné, des idées de mise en scène plein les méninges. Du pied, il déplaça le cadavre de façon à rendre l'antagonisme plus frontal. Il retira sa veste, avec essuya son arme, effaça soigneusement ses traces. Il n'omit ni la détente, ni le chien. Ses empreintes escamotées, il glissa le fusil entre les pattes du sanglier. Les flics concluraient au suicide de l'animal. Ils déduiraient qu'il s'était donné la mort après avoir canardé la carne. Le stratagème était imparable. Eugène était content. Il aimait le mot « stratagème ». Il l'articula pour en profiter encore un peu et renfila sa veste. Il ne lui restait plus qu'à reconduire la Maserati à sa place. Il vérifia derrière si le trident de la marque était toujours accroché au haillon, se rassura. Aucun dommage, nulle altération du logo. Il consulta sa montre. Il n'avait pas une minute à perdre. S'il voulait restituer le véhicule, ni vu ni connu, il fallait rallier le parking avant l'aube et la fermeture du grand casino. Il démarra, le moteur vrombit. C'était de la bonne bagnole.